Il fait très froid ce matin-là, aux abords du fort de Montrouge. Arrivé dès les premières heures du jour, un peloton est prêt, se réchauffant les pieds et les mains comme il peut en attendant les ordres. Ces militaires ne le savent peut-être pas encore, mais ils vont exécuter les premiers condamnés à mort légaux de l'épuration. Après 4 longues années d'occupation, d'humiliation et de privation, l'opinion publique hurle vengeance et réclame des têtes, et rapidement. En attendant les procès des caciques de la collaboration, toujours réfugiés à Sigmaringen depuis l'été 1944, la police et la justice se rabattent sur ce qu'elles ont sous la main, des malfrats qui ont collaboré avec l'occupant. De la vermine, de la racaille, de la graine à mandragore, de bons clients pour les journalistes qui feront leur chou gras de cette fin méritée. Les Français veulent voir des têtes tomber, le gouvernement provisoire de la République française va leur en donner. Qui pleurera ces condamnés? Personne. C'est la lie de la société qui va expier ses crimes à l'aube de ce 27 décembre 1944. Le procès a été rapide, pour ne pas dire expédié. Leur culpabilité ne faisait guère de doute et les preuves étaient accablantes. Pour la forme, on a fait comme si. À la tête d'une France fraîchement libérée du joug nazi, le général de Gaulle fait tout son possible pour rétablir l'ordre républicain sur l'ensemble du territoire et restaurer les institutions. Alors va pour un procès, même pour cette engeance, histoire de montrer que la République française est bien de retour et que ses administrations fonctionnent normalement. Au loin, à l'est, la guerre contre le Troisième Reich n'est pas terminée. Si la victoire finale est acquise, une petite partie du territoire reste encore occupée par la Wehrmacht, qui tente même une ultime offensive dans les Ardennes. Au moment où vont retentir les coups de fusil dans les fossés du fort de Montrouge, d'autres crépitent en Belgique. Outre Quiévrain, les Américains ont même reculé sous l'effet de surprise et les combats font rage. En cette fin d'année, le sort des armes est encore incertain. Ce 27 décembre 1944, c'est tout un convoi qui se dirige vers le lieu d'exécution. 2 fourgons cellulaires assurent le transfert des condamnés, suivis par un cortège de voitures officielles. Enquêteurs, juges, procureurs, avocats, greffiers, prêtres, médecins légistes, tout ce petit monde est convoqué tôt le petit matin pour s'assurer que la sentence est appliquée dans les règles. Dans un coin, volontairement dissimulé comme il se doit, le fourgon mortuaire et les cercueils en bois blanc sont prêts, attendant leur futur pensionnaire. Les 4 premiers condamnés sortent du véhicule. Il s'agit d'André Angel, Louis Haré, Charles Delval et de l'ex-inspecteur de police Pierre Bonny, qui tente jusqu'à l'ultime instant de négocier sa survie en promettant d'importantes révélations. En vain. Avant d'être conduit au poteau d'exécution, Pierre Bonny accepte le traditionnel verre de rhum, communie quelques instants avec le prêtre et recommande sa femme et son fils à son avocat. Une fois le macabre rituel terminé, les condamnés sont attachés au poteau d'exécution. Le peloton se met en position. « Soldats, en joue, feu !» La première salve retentit. Suivi par le traditionnel coup de grâce, une balle dans la tête pour chacun d'entre eux. Les premiers condamnés mis en bière, on prépare la deuxième et dernière salve. Cette fois, c'est du lourd, comme dirait Audiard. Henri Chamberlain, dit Lafon, descend du fourgon. Celui qui a été l'homme le plus puissant, le plus craint et probablement le plus riche de Paris pendant l'occupation, termine sa cigarette, refuse un dernier verre de rhum, ainsi que le secours du prêtre. Avec lui vont mourir Louis, dit Eddy Pagnon, Alexandre Villaplana et Paul Clavier. Avant d'être conduit devant le peloton d'exécution, Lafon salue une dernière fois ses compagnons d'infortune. L'ex-chef de la carlingue remercie également son avocat pour avoir assuré sa défense. Ses dernières paroles auraient été « Cela m'est égal de mourir. J'ai vécu 10 vies. Je peux bien en perdre une. » À nouveau, une salve retentit dans les fossés du fort de Montrouge, suivie du rituel coup de grâce. Il est 10h15. Tout est fini. Note préliminaire. Pendant 4 longues années, Lafont et ses hommes ont brassé des sommes d'argent considérables. Pour mieux en saisir l'ampleur, il convient de rappeler quelle était l'échelle des valeurs de l'époque. Contrairement à aujourd'hui, il n'existait pas de salaire minimum et l'écart pouvait être très large, surtout entre Paris et la province, entre un homme et une femme. À titre indicatif, en bas de l'échelle, en province, un employé de bureau pouvait toucher 1500 francs par mois, 1300 francs pour une femme. La solde mensuelle d'un soldat en 1940 était de 600 francs. Le salaire moyen d'un ouvrier débutant était de 1500 francs en province et pouvait grimper jusqu'à 4500 francs pour un ouvrier hautement qualifié en région parisienne. Travailler pour une entreprise indispensable à l'effort de guerre allemand permettait d'en obtenir un très supérieur à la moyenne. Un commerçant prospère pouvait gagner entre 10 000 et 20 000 francs par mois. 10 000 francs mensuels étaient considérés comme un salaire confortable, surtout dans la capitale où plus de la moitié des revenus étaient utilisés pour le logement et la nourriture. Un petit deux pièces moderne à Paris se louait 1200 francs. Une place au premier rang d'un spectacle parisien coûtait 120 francs et un whisky 10 francs. Une star comme Arletty pouvait gagner plus d'1 million de francs par film. Enfin, puisque l'on parle d'Arletty, Les Enfants du Paradis, la superproduction des années sombres, disposait du budget considérable de 50 millions de francs. Rappelons également que pendant l'occupation, l'inflation était forte, 166% de 1940 à 1944, nécessitant des hausses régulières de salaire pour rattraper le coût de la vie.